Eschatologie et prophétie. Une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.
Amis auditeurs, bonjour. Heureux de nous retrouver dans notre émission Eschatologie et prophétie. Nous poursuivons notre émission sur les fins dernières avec donc cette réflexion du Père Philippe-Marie Margelidon, dominicain de la province de Toulouse, professeur à l'Institut théologique et à la Faculté théologique de Toulouse. Nous avons vu donc la semaine dernière cette articulation des deux jugements, le jugement particulier, le jugement universel. Pour résumer un peu tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, nous allons reprendre dans le début de cette émission le catéchisme de l'Église catholique à partir du numéro 1020 et suivant, pour nous aider à faire cette synthèse de cet 12e article du Credo « Je crois à la vie éternelle ». Je crois à la vie éternelle. Voilà ce que nous professons à chaque fois que nous récitons notre credo. Entrons maintenant dans le contenu de ce dogme de foi. Le chrétien qui unit sa mort à celle de Jésus, dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1020, voit la mort comme une venue vers lui et une entrée dans la vie éternelle. Lorsque l'Église a pour la dernière fois dit les paroles de pardon de l'absolution du Christ sur le chrétien mourant, l'a scellé pour la dernière fois d'une onction fortifiante et lui a donné le Christ dans le viatique comme nourriture pour le voyage, elle lui parle avec une douce assurance. Quitte ce monde, âme chrétienne, au nom du Père Tout-Puissant qui t'a créé, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a souffert pour toi, au nom du Saint-Esprit qui a été répandu en toi. Prends ta place aujourd'hui dans la paix et fixe ta demeure avec Dieu dans la Sainte Sion, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les anges et tous les saints de Dieu. Retourne auprès de ton Créateur qui t'a formé de la poussière du sol. Qu'à l'heure où ton âme sortira de ton corps, Marie, les anges et tous les saints se hâtent à ta rencontre. Que tu puisses voir ton Rédempteur face à face. Magnifique donc oraison que l'on retrouve dans le rituel de ce qu'on appelle l'extrême onction, cette dernière onction qui nous donne justement les moyens du salut pour vivre ce passage de la mort vers la vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Nous avons vu aussi qu'au moment de notre mort apparaît donc le moment du jugement particulier. Tout homme qui meurt comparaît devant le Christ et vient être jugé sur sa vie. La mort met fin à la vie de l'homme, comme temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. Surtout, voilà, dans les dernières émissions, nous avons insisté sur l'importance de notre libre arbitre. Le Seigneur qui nous a créés libres veut aussi nous sauver dans cette liberté. Il laisse la liberté à chacune de ses créatures de le choisir ou de le rejeter. Le Nouveau Testament parle de jugement principalement dans la perspective de la rencontre finale avec le Christ dans son second avènement. Mais elle affirme aussi à plusieurs reprises la rétribution immédiate après la mort de chacun en fonction de ses œuvres et de sa foi. La parabole, par exemple, du pauvre Lazare, et la parole du Christ en croix au bon larron, ainsi que d'autres textes du Nouveau Testament parlent d'une destinée ultime de l'âme, qui peut être différente pour les unes ou pour les autres. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort, et un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour être damné immédiatement pour toujours. Et le catéchisme fait référence à cette parole, cette citation bien connue de saint Jean de la Croix, « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour ». La destinée que Dieu fixe à toute âme, c'est le ciel. Mais bien sûr, ce ciel, nous devons le choisir, nous devons nous orienter notre désir vers le ciel, pour que nous puissions recevoir la grâce de miséricorde, la grâce de salut que Dieu veut nous donner afin de pouvoir y accéder. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu et qui sont parfaitement purifiés vivent pour toujours avec le Christ. Ils sont pour toujours semblables à Dieu parce qu'ils le voient tel qu'il est, selon l'affirmation de l'apôtre saint Jean dans sa première lettre. Cette vie parfaite avec la très sainte Trinité, cette communion de vie et d'amour avec elle, avec la Vierge Marie, les anges et tous les bienheureux appelés le ciel est la fin ultime et la réalisation des aspirations les plus profondes de l'homme, l'état de bonheur suprême et définitif. Vivre donc au ciel, c'est être avec le Christ. Les élus vivent en lui, mais ils y gardent mieux, ils y trouvent leur vraie identité, leur propre nom. Car la vie, c'est d'être avec le Christ. Là où est le Christ, là est la vie, là est le royaume. Alors cette doctrine du jugement particulier et d'une rétribution immédiate après la mort n'obscurcit en rien le dogme de ce qu'on appelle aussi le jugement général ou le jugement dernier. Elle ne le rend pas non plus inutile, car ce jugement a une autre signification. Nous voyons donc qu'il y a deux jugements. On pourrait dire, mais pourquoi ? Pourquoi être jugé deux fois ? Eh bien, nous allons le voir. Le Christ, lors de son ultime avènement, qu'on appelle la parousie, sera la cause formelle et efficiente du jugement dernier, de l'ultime jugement de Dieu sur le monde et sur l'histoire des hommes. Parce qu'il est le Sauveur et le Rédempteur des hommes, Dieu le Père lui a remis toute l'autorité judiciaire. Dans l'Esprit, il jugera toutes choses, en tant que Dieu, Fils du Père, et en tant qu'homme, soit pour sa consommation et sa transfiguration, soit pour sa condamnation et son éternelle perdition. D'après saint Thomas d'Aquin, le jugement général, ou dernier, ne sera pas une simple reprise et répétition de tous les jugements particuliers. Dieu ne jugera pas deux fois la même cause, à savoir sous le même rapport. Mais il n'est pas impossible que Dieu juge deux fois la même cause sous des points de vue divers. Ce qui fonde l'existence de ce second jugement, c'est précisément le caractère universel, social de l'homme, qui n'est pas seulement un individu isolé, mais un membre de l'humanité tout entière, et même un être cosmique. Tout homme est à la fois une personne distincte et une partie de tout le genre humain. Il doit donc être l'objet d'un double jugement, l'un individuel, singulier, celui-là a lieu après la mort, quand il est traité selon ce qu'il a fait en sa vie corporelle. L'autre porte sur l'homme en tant que partie de tout le genre humain. De même qu'on dit que quelqu'un est jugé par la justice humaine quand celle-ci porte un jugement sur une collectivité dont il fait partie. Ce jugement, en effet, sera d'ordre avant tout collectif. Ce n'est pas l'individu comme tel qui est jugé, mais l'humanité entière et l'histoire parvenue à son terme. Le jugement universel regarde plus directement la totalité des hommes que chacun de ceux qui sont jugés. D'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, par exemple, où il nous est révélé explicitement ce jugement dernier, il est parlé du jugement des nations. Au chapitre 25 de Matthieu. Dans le jugement particulier et juger la valeur morale subjective de chaque personne humaine. Illuminés individuellement et séparément par l'action divine, chacun se reconnaît juste ou pécheur. Dans le jugement général, qui s'accomplira lui aussi, non pas oralement mais on pourrait dire spirituellement, cette valeur morale de chacun est rendue publique par une illumination collective de la puissance divine. En effet, nous sommes des êtres liés les uns aux autres. Nous formons une société spirituelle. Cette solidarité naturelle et surnaturelle qui nous unit nous met en état de réagir profondément les uns sur les autres, que ce soit consciemment ou non. Il y a une bonté et une malice des actions humaines dont l'influence s'exerce sur l'entourage et sur la société entière. Les conséquences des actes humains sont infiniment complexes et se prolongent bien au-delà de l'existence terrestre de chacun. De ce point de vue, à la mort, nul ne meurt tout entier, comme le fait observer saint Thomas. Bien que par la mort, la vie temporelle de l'homme soit terminée si on la considère en soi, elle demeure cependant d'une certaine manière dépendante de l'avenir. Quant à ses effets humains et son rayonnement cosmique, bon ou néfaste, et quant à ses répercussions historiques et sociales, du moins tant que le cours de ce temps se poursuit. C'est seulement à la fin des temps que chaque vie humaine, appréhendée dans sa relation à la totalité achevée de l'histoire de l'humanité, qu'apparaîtra dans son ultime et définitive signification le jugement dernier. Cette connaissance ultime et contemporaine du jugement dernier concourra à la récompense ou à la preuve subjective de chacun, dit même saint Thomas. Le jugement du Christ, le jugement donc dernier, mettra à jour les fausses estimations de ce monde, la bonté objective ou la malfaisance des événements de l'histoire, la portée réelle des créations culturelles, artistiques, scientifiques, la vérité ou le mensonge des systèmes philosophiques et des idéologies, la justice ou l'injustice des institutions politiques et économiques, les conséquences indéfinies des guerres, schismes et autres calamités dans l'histoire humaine et ecclésiale. À la fin des temps, Dieu révélera tout dans sa lumière et selon sa vraie mesure. Ainsi, lors du jugement dernier, dans un acte souverain, le Christ glorieux prononcera le dernier mot de la création et de l'histoire. Il triomphera définitivement de Satan, des démons et des puissances du mal, réduites désormais à l'impuissance et pour leur confusion. Le Christ étend son autorité sur les démons qui pourraient nuire aux hommes par permission divine, afin que ceux-ci en triomphent. Les justes participeront à cette domination du Christ, à sa victoire sur le mal et sur Satan. Les apôtres qui seront avec le Christ participeront à son jugement, car ils recevront de lui ce pouvoir. En tant qu'attirés promulgateurs, les anges, eux l'approuveront et l'exécuteront. Les justes et les saints aussi se tiendront à la droite du Christ au jour du jugement, occupant à sa droite la place la plus honorable. Ils exerceront le jugement en tant qu'assesseurs et en l'approuvant. Tout cela se fonde bien sûr sur les affirmations de Jésus lui-même dans les évangiles quand il parle du moment de ce jugement dernier, quand il viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Par exemple, cette citation, pour reprendre l'évangile de Matthieu, chapitre 25, qui introduit cette parabole du jugement dernier, Jésus nous dit « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. » Donc nous voyons que ce jugement, le Seigneur l'exerce et aussi avec lui est présente l'assemblée des anges et tous les saints. C'est donc comme une cour, on pourrait dire une cour suprême, angélique, et aussi de tous les saints, de tous ceux qui sont déjà unis au Christ, qui règnent avec le Christ. Et ce jugement, il nous manifeste justement cette justice de Dieu qui devra apparaître. Et lorsque on voit aussi un peu le monde contemporain, et certains nous opposent aussi à cette, entre guillemets, passivité de Dieu devant les événements du monde. Si Dieu existe, pourquoi il laisse faire ceci? Pourquoi il laisse faire cela? Pourquoi tant de mal? Pourquoi tant d'enfants persécutés? Pourquoi les guerres injustes, etc.? Eh bien, ça, c'est le pouvoir du mal. Et Dieu a laissé aussi ce mal aussi agir dans le monde. Mais ce mal viendra à être jugé. Et tous les acteurs de ces maux, tous les acteurs du mal seront jugés et bien recevront aussi en rétribution leur juste sentence. Donc voilà, ce monde et les horreurs qu'on peut y voir seront jugées, mais aussi les bonnes choses, les choses positives. Ne voyons pas que le négatif, il y a aussi, grâce à Dieu, comme on dit, des choses très belles qui se passent aussi dans le monde. Des actes d'amour, des actes de miséricorde, des actes de compassion, et tout cela aussi sera mis en lumière, cette fois pour être glorifié. Donc, c'est une belle chose, et c'est une chose nécessaire même, qu'apparaisse dans ce monde ce jugement dernier. Les apôtres qui seront avec le Christ participeront à son jugement, car ils recevront de lui ce pouvoir en tant que, attitré promulgateur, dit saint Thomas. Et les anges eux-mêmes aussi l'approuveront et l'exécuteront. Apôtres et justes jugeront à leur rang et selon leur dignité, car il est convenant que ceux qui ont annoncé les préceptes de la vie éternelle soient aussi ceux qui examinent les actes des hommes quant à leur observation des commandements divins, c'est-à-dire que l'examen du jugement portera sur les actes des hommes selon qu'ils auront usé des choses terrestres en bien ou en mal, de telle manière que les apôtres contribueront à faire apparaître pour chacun la cause du salut ou de la damnation, la sienne comme celle des autres, à la manière dont on dit que les anges supérieurs illuminent les inférieurs et même les hommes. Quant au jugement et au jour de ce jugement dernier, le Christ lui-même nous dit que nous ne le savons pas. Il ne nous est pas donné de connaître les temps fixés par le Père. Ils nous sont donc inconnus. Le Christ apparaîtra, se fera connaître comme juge par l'effet de ce jugement, en lequel il sera connu de la sorte qu'il sera là où il agira, là où il jugera, c'est-à-dire en tous, à propos de tout et par toute chose, mais seuls le verront dans sa gloire, en son jugement transfigurateur, les justes, les élus du royaume. Et Jésus nous dit aussi, à propos du temps de ce jugement dernier, que le Seigneur patiente pour laisser à chacun aussi la possibilité de se convertir. Le jugement dernier s'achèvera dans l'acte de rétribution par la transfiguration du monde et la résurrection de la chair. La séquence du jugement dernier, fin du monde, résurrection des morts, glorification des élus et condamnation des damnés, séparation définitive d'avec les mauvais anges, Satan et ses démons, sont divers aspects du second avènement du Seigneur que l'on nomme la parousie. Donc, après ce jugement, arriveront les cieux nouveaux, la terre nouvelle, comme le dit le livre de l'Apocalypse. Donc, nous voyons que nous pouvons aussi trouver des éléments d'explicitation de ces jugements. Et il est bon pour nous aussi, de se poser la question, et c'est tout le rôle de la théologie, justement, de s'interroger sur les mystères de Dieu, pour en approfondir le sens et pour pénétrer toujours plus avant dans le mystère de Dieu. N'oublions pas que la foi est un acte aussi de l'intelligence. Donc chercher à approfondir sa foi, ou le contenu de sa foi, eh bien, est un acte de l'intelligence. Dieu nous a donné un cœur pour aimer, mais aussi l'intelligence pour chercher la vérité, pour chercher la lumière. Et donc, voilà, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la doctrine aussi du magistère de l'Église, eh bien, nous pouvons et nous avons cette capacité de pouvoir pénétrer dans le mystère de Dieu et de pouvoir en approfondir le sens. Et c'est exactement voilà, ce que nous essayons de faire. À la lumière, encore une fois, de la parole de Dieu, c'est pas à la lumière de ma perspective personnelle ou d'un ressenti ou d'une expérience mystique. C'est vraiment à partir du contenu de la révélation. Et la révélation, pour nous catholiques, nous savons que cette révélation, c'est la Sainte Écriture et le magistère. Les deux qui vont de pair. C'est à travers ces moyens que Dieu se révèle à nous. Et nous pouvons entrer dans cette révélation pour, tout en éclairant notre intelligence, essayer d'en vivre d'une manière plus profonde. Ouvrons maintenant un quatrième volet, quatrième chapitre, donc, de la vie de l'âme séparée à la vision de Dieu. Après le jugement particulier et avant la résurrection, l'âme séparée demeure et subsiste, du fait même de son principe d'immortalité, puisque l'âme est un esprit, un pur esprit. Mais l'état séparé semble la réduire de beaucoup. On ne voit pas bien de quelle activité elle est encore capable. En effet, l'activité intellectuelle de l'âme séparée apparaît difficilement possible quand le cerveau qui en conditionne l'exercice n'existe plus. La tentation serait alors de proposer une solution radicale apparemment cohérente. La mort met fin à la vie humaine, purement et simplement. La résurrection la recommence autrement. Cependant, dans cette hypothèse, si la mort est totale, elle met fin à toute existence humaine. Elle dément toute inclination naturelle à connaître Dieu. Elle frustre tout désir naturel de voir Dieu. Elle en manifesterait la vacuité. Et pour comprendre en quoi cette hypothèse est irrecevable, il convient d'expliquer la nature et le fondement de ce désir naturel de voir Dieu qui appartient à la structure même de l'âme humaine immortelle. Voir Dieu est une inclination naturelle fondamentale de l'âme humaine qui est, selon l'affirmation aussi des théologiens, capax dei, c'est-à-dire qui a cette capacité de voir Dieu, capable de Dieu. Ce désir est inclination naturelle inscrite dans la nature intellectuelle de l'âme. Elle constitue le fondement ontologique de toute connaissance naturelle de Dieu, comme l'assentiment de foi par la grâce. La doctrine de saint Thomas du désir naturel de voir Dieu a fait l'objet de controverses mémorables. Cette doctrine est pourtant capitale. Il ne s'agit pas de constater le fait, d'en déterminer l'objet réel parmi les aspirations apparemment diverses et contrastées des hommes, mais d'en fournir la justification métaphysique. Dieu nous appelle à la béatitude. L'homme désire naturellement être heureux. Or, la béatitude parfaite est surnaturelle et gratuite. Pourtant, l'homme a été créé et voulu pour cette fin ultime qui n'est autre que Dieu vu en lui-même. Saint Thomas montre que l'homme est ouvert à tout l'être par la connaissance, que l'âme intellective a une amplitude qui transcende ses limites constitutives. Cette ouverture connaturelle à l'âme humaine en tant qu'esprit révèle un appétit naturel d'un au-delà de ses limites ontologiques. Elle manifeste une disposition naturelle à être comblée par une connaissance et un amour qui ne peuvent être satisfaits que dans la vision de la cause première universelle de tout ce qui est, celui qu'on appelle Dieu. Tout homme cherche le bonheur, donc, et ça, je pense que c'est vraiment une valeur commune. Tout homme cherche à être heureux. Il pense trouver son bonheur dans des biens et les choses de ce monde, mais ce désir du bonheur, qu'on appelle béatitude, reste mal défini en dehors de la révélation chrétienne. Dans notre expérience, nous voyons que malgré cette quête, on pourrait dire, du bonheur, eh bien, l'homme demeure insatisfait. Ce qui fait dire à saint Augustin cette phrase bien connue, hein, « Mon cœur est sans repos tant qu'il demeure loin de Dieu ». Au contraire, quand il trouve Dieu, alors mon âme entre dans le repos. Il entre déjà, il peut goûter par anticipation déjà cet état de la béatitude. Saint Thomas parle d'un désir qui se trouve en tout homme, intérieur à toutes ses aspirations humaines et à tous ses désirs authentiquement humains, et en même temps en tout esprit créé, parce qu'il est enraciné dans la nature même de l'âme, créée directement par Dieu. L'âme nous est cette réalité, ce principe de vie de l'homme qui fait que l'homme est créé à l'image et ressemblance de Dieu. Et donc, il y a cette capacité, cet appétit même, dont parle saint Thomas, de connaître Dieu, de vouloir entrer dans la communion avec lui. Et cela n'est pas détruit par le péché. Cela est obscurci, on pourrait dire, par le péché. Il y a donc l'obstacle du péché dans cet élan vers Dieu, mais le désir profond de l'âme de s'unir à son Dieu reste bien réel. C'est pour ça que dans tout homme, il y a une quête de transcendance, une quête de l'existence de Dieu, d'entrer dans la connaissance de Dieu. Cet appétit manifeste la capacité de l'esprit à désirer ce qui seul peut le satisfaire pleinement en tant que nature intellectuelle. Ce désir étant l'aspiration d'une intelligence et un désir naturel de connaître l'être, le vrai est la cause première de tout être et de toute vérité. Et c'est pourquoi saint Thomas parle d'un désir naturel de voir Dieu qui est le plus radical, car c'est un fait qu'une nature intellectuelle créée, inclinée à connaître la plénitude du vrai, ne peut avoir sa béatitude parfaite qu'en Dieu, vu face à face. Eh bien, voilà, nous arrêterons cette émission, cette semaine, sur ce désir naturel de voir Dieu. Et puisque nous sommes tout proches de la fête de Noël, eh bien, la fête de l'incarnation nous montre aussi cette initiative de Dieu qui vient à la rencontre de ce désir naturel de le connaître, de le voir. C'est lui qui prend l'initiative et il vient à nous à travers les traits d'un tout petit, d'un enfant, d'un nourrisson. Et donc, ce que nous n'aurions jamais pu concevoir, ce qui pourrait paraître même extérieurement un scandale, eh bien Dieu, lui, le réalise par amour pour nous. Alors, vivons pleinement de ce temps de Noël, dans voilà, la joie de pouvoir eh bien, jouir de cette vision du Verbe fait chair, celui qui est venu parmi nous pour nous sauver. Bonne semaine à vous tous, bonne fête, et nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.